Chapitre 5. Disgrâce, Monsieur le duc d'Aiguillon, la part du roi. Le lendemain, 11 heures sonnaient à la grande horloge de Versailles quand le roi Louis XV, sortant de son appartement, traversa la galerie voisine de sa chambre et appela d'une voix haute et sèche « Monsieur de la Vrillière ». Le roi était pâle et semblait agité. Plus il prenait de soin pour cacher cette préoccupation, plus cela éclatait dans l'embarras de son regard et dans la tension des muscles ordinairement impassibles de son visage. Un silence glacé s'établit aussitôt dans les rangs des courtisans, parmi lesquels on remarquait M. le duc de Richelieu et le vicomte Jean du Barry, tous deux calmes et affectant l'indifférence et l'ignorance. Le duc de la Vrillière s'approcha et prit des mains du roi une lettre de cachet que sa majesté lui tendait. « Monsieur le duc de Choiseul est-il à Versailles ? » demanda le roi. « Sire, depuis hier, il est revenu de Paris à 2 heures de l'après-midi. Est-il à son hôtel ? Est-il au château ? Il est au château, sire. »« Bien, dit le roi, portez-lui cet ordre, duc. » Un long frémissement courut dans les rangs des spectateurs qui se courbèrent tout en chuchotant comme les épis sous le souffle du vent d'orage. Le roi fronça le sourcil, comme s'il voulait ajouter par la terreur à l'effet de cette scène, rentra fièrement dans ce cabinet, suivi de son capitaine des gardes et du commandant des chevaux légers. Tous les regards suivirent M. de la Vrillière, qui, inquiet lui-même de la démarche qu'il allait faire, traversait lentement la cour du château et se rendait à l'appartement de M. de Choiseul. Pendant ce temps, toutes les conversations éclataient, menaçantes ou timides, autour du vieux maréchal qui faisait l'étonner plus que les autres, mais dont, grâce à un certain sourire précieux, nul n'était dupe. M. de la Vrillière revint et fut entouré aussitôt. « Bien, lui dit-on. Eh bien, c'était un ordre d'exil. »« D'exil ? Oui, en bonne forme. » Vous l'avez vu, duc ? Je l'ai vu. Positif ? Jugez-en. » Et le duc de la Vrillière prononça les paroles suivantes qu'il avait retenues avec cette mémoire implacable qui constitue les courtisans. « Mon cousin, le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans les 24 heures. Je vous aurais envoyé plus loin si ce n'était l'estime particulière que j'ai pour Madame de Choiseul, dont la santé m'est fort intéressante. Prenez garde que votre conduite ne me fasse prendre un autre parti. » Un long murmure courut dans le groupe qui enveloppait le duc de la Vrillière. « Et que vous a-t-il répondu, monsieur de Saint-Florentin ? » demanda Richelieu, affectant de ne donner au duc ni son nouveau titre ni son nouveau nom. « Il m'a répondu, monsieur le duc, je suis persuadé de tout le plaisir que vous avez eu à m'apporter cette lettre. »« Ah, c'était dur, mon pauvre duc, » fit Jean. « Que voulez-vous, monsieur le vicomte ? On ne reçoit pas une pareille tuile sur la tête sans crier un peu. » « Et que va-t-il faire, savez-vous ? » demanda Richelieu. « Mais selon toute probabilité, il va obéir, » fit le maréchal. « Voici le duc, » s'écria Jean, qui faisait sentinelle près de la fenêtre. « Il vient ici, » s'écria le duc de la Vrillière. « Quand je vous le disais, monsieur de Saint-Florentin. » « Il traverse la cour, » continua Jean. « Seul ? Absolument seul, son portefeuille sous le bras. » « Ah, mon Dieu !» murmura Richelieu, « est-ce que la scène d'hier va recommencer ?»« Ne m'en parlez pas, j'en ai le frisson, » répondit Jean. Il n'avait pas achevé que Luc de Choiseul, la tête haute, le regard assuré, parut à l'entrée de la galerie, foudroyant d'un œil clair et calme tous ses ennemis ou ceux qui allaient se déclarer tels en cas de disgrâce. Nul ne s'attendait à cette démarche, après ce qui venait de se passer, nul ne s'y opposa donc. « Êtes-vous sûr d'avoir bien lu, duc ?» demanda Jean. « Parbleu ! Et il revient après une lettre comme celle que vous nous avez dite. Je n'y comprends plus rien, c'est ma parole d'honneur. Mais le roi va faire jeter la Bastille. Ce sera un scandale épouvantable. Je le plaindrai presque. Ah, le voilà qui entre chez le roi, c'est inouï !» Et en effet, le duc, sans faire attention à l'espèce de résistance que lui opposait l'huissier, à la figure toute stupéfaite, pénétra jusque dans le cabinet du roi, qui poussa, en le voyant, une exclamation de surprise. Le duc tenait à la main sa lettre de cachet, il la montra au roi avec un visage presque souriant. Sire, dit-il, ainsi que votre majesté voulut bien m'en avertir hier, j'ai reçu tout à l'heure une nouvelle lettre. Oui, monsieur, répliqua le roi. Et comme votre majesté eut la bonté de me dire hier de ne jamais regarder comme sérieuse une lettre qui ne serait pas ratifiée par la parole expresse du roi, je viens demander l'explication. Elle sera courte, monsieur le duc, répondit le roi. Aujourd'hui, la lettre est valable. Valable, dit le duc, une lettre aussi offensante pour un serviteur aussi dévoué. Un serviteur dévoué, monsieur, ne fait pas jouer à son maître un rôle ridicule. Sire, dit le ministre avec hauteur, je croyais être né assez près du trône pour en comprendre la majesté. Monsieur, repartit le roi d'une voix brève, je ne veux pas vous faire languir. Hier au soir, dans le cabinet de votre hôtel à Versailles, vous avez reçu un courrier de madame de Grammont. C'est vrai, sire. Il vous a remis une lettre. Est-il défendu, sire, à un frère et une sœur de correspondre? Attendez, s'il vous plaît, je sais le contenu de cette lettre. Oh, sire. Le voici. J'ai pris la peine de le transcrire de ma main. Et le roi tendit au duc une copie exacte de la lettre qu'il avait reçue. Sire, ne niez pas, monsieur le duc, vous avez serré cette lettre en un coffret de fer placé dans la ruelle de votre lit. Le duc devint pâle comme un spectre. Ce n'est pas tout, continua impitoyablement le roi. Vous avez répondu à madame de Grammont. Cette lettre, j'en sais le contenu également. Cette lettre est là, dans votre portefeuille, et n'attend pour partir qu'un post-scriptum que vous devez ajouter en me quittant. Vous voyez que je suis instruit, n'est-ce pas? Le duc essuya son front mouillé d'une sueur glacée, s'inclina sans répondre, et sortit du cabinet en chancelant comme s'il était atteint d'apoplexie foudroyante. Sans le grand air qui frappa son visage, il fut tombé à la renverse. Mais c'était un homme d'une puissante volonté. Une fois dans la galerie, il reprit sa force, et traversant le front haut la haie des courtisans, il rentra dans son appartement pour scier et brûler divers papiers. Un quart d'heure après, il quittait le château dans son carrosse. La disgrâce de monsieur de Choiseul fut un coup de foudre qui incendia la France. Les parlements, soutenus en effet par la tolérance du ministre, proclamèrent que l'État venait de perdre sa plus ferme colonne. La noblesse tenait à lui comme à un des siens. Le clergé s'était senti ménagé par cet homme dont la dignité personnelle, exagérée souvent jusqu'à l'orgueil, donnait un air de sacerdoce à ses fonctions ministérielles. Le parti encyclopédiste ou philosophe, fort nombreux déjà et surtout très fort, parce qu'il se recrutait chez des gens éclairés, instruits et ergoteurs, poussa les hauts cris en voyant le gouvernement échapper aux mains du ministre qui encensait Voltaire, pensionnait l'encyclopédie et conservait, en les développant dans un sens d'utilité, les traditions de madame de Pompadour, mécène femelle des gens du mercure et de la philosophie. Le peuple avait bien plus de raisons que tous les mécontents. Il se plaignait aussi, le peuple, et sans approfondir, mais comme toujours, il touchait la grosse vérité, la plaie vive. Monsieur de Choiseul, au point de vue général, était un mauvais ministre et un mauvais citoyen, mais relativement, c'était un parangon de vertu, de morale et de patriotisme. Quand le peuple, mourant de faim dans les campagnes, entendait parler des prodigalités de Sa Majesté, des caprices ruineux de madame du Barry, lorsqu'on lui envoyait directement des avis comme l'homme aux 40 écus, ou des conseils comme le contrat social, occultement des révélations comme les nouvelles à la main et les idées singulières d'un bon citoyen, alors le peuple s'épouvantait de retomber aux mains impures de la favorite, moins respectable que la femme d'un charognier, avait dit Beauvau, aux mains des favoris de la favorite, et fatigué de tant de souffrances, s'étonnait de voir l'avenir plus noir que n'avait été le passé. Ce n'était pas que le peuple qui avait des antipathies eût des sympathies bien marquées. Il n'aimait pas les parlements parce que les parlements, ses protecteurs naturels, l'avaient toujours abandonné pour des questions oiseuses de préséance ou d'intérêt égoïste. Parce que, mal éclairés par le faux reflet de l'omnipotence royale, ces parlements s'étaient imaginés être quelque chose comme une aristocratie entre la noblesse et le peuple. il n'aimait pas la noblesse par instinct et par souvenir. Il craignait l'épée autant qu'il haïssait l'Église. Rien ne pouvait le toucher dans le renvoi de M. de Choiseul, mais il entendait les plaintes de la noblesse, du clergé, du parlement, et ce bruit, ajouté à ses murmures, faisait un fracas qui l'enivrait. La déviation de ce sentiment fut du regret et une quasi-popularité acquise au nom de M. de Choiseul. Tout Paris, le mot peut ici se justifier par une preuve, accompagna jusqu'aux portes l'exilé partant pour Chanteloup. Le peuple faisait la haie sur le passage des carrosses, les parlementaires et les gens de cour, qui n'avaient pu être reçus par le duc, embossèrent leurs équipages devant la haie du peuple pour le saluer au passage et recueillir son adieu. Le plus épais de la bagarre fut à la barrière d'enfer qui est la route de Touraine. Il y eut là une telle affluence de gens de pied, de cavaliers et de carrosses que la circulation en fut interrompue pendant plusieurs heures. Lorsque le duc réussit à franchir la barrière, il se trouva escorté par plus de 100 carrosses qui faisaient comme une auréole au sien. Les acclamations et les soupirs le suivaient encore. Il eut trop d'esprit et de connaissance de la situation pour ne pas comprendre que tout ce bruit était moins du regret de sa personne que de l'appréhension pour les inconnus qui surgiraient de ces ruines. Une chaise de poste arrivait au galop sur la route encombrée, et sans un violent effort du postillon, les chevaux, blancs de poussière et d'écume, allaient se précipiter dans l'attelage de M. de Choiseul. Une tête se pencha hors de cette chaise, comme aussi M. de Choiseul se pencha hors de son carrosse. M. d'Aiguillon salua profondément le ministre déchu dont il venait briguer l'héritage. M. de Choiseul se rejeta dans la voiture. Une seule seconde venait d'empoisonner les lauriers de sa défaite. Mais au même moment, comme compensation sans doute, une voiture aux armes de France, qui passait conduite à 8 chevaux sur l'embranchement de la route de Sèvres à Saint-Cloud, et qui, soit hasard, soit effet de l'encombrement, ne traversait pas la grande route, cette voiture royale croisa aussi le carrosse de M. de Choiseul. La dauphine était sur le siège du fond, avec sa dame d'honneur, Madame de Noailles. Sur le devant était Mademoiselle Andrée de Tavernay. M. de Choiseul, rouge de plaisir et de gloire, se pencha hors de la portière en saluant profondément. « Adieu, madame, » dit-il d'une voix entrecoupée. « Au revoir, monsieur de Choiseul, » répondit la dauphine avec un sourire impérial et le dédain majestueux de toute étiquette. « Vive monsieur de Choiseul !» cria une voix enthousiaste après ces paroles de la dauphine. Mademoiselle Andrée se retourna vivement au son de cette voix. « Gare, gare !» crièrent les écuyers de la princesse en forçant Gilbert, tout pâle et tout avide de voir, à se ranger le long des fossés de la route. C'était en effet notre héros qui, dans un enthousiasme philosophique, avait crié « Vive monsieur de Choiseul !» Autant l'on promenait à Paris et sur la route de Chanteloup des mines grimaçantes et d'yeux rouges, autant à Lucienne on apportait de visages épanouis et de sourires charmants. C'est qu'à Lucienne, cette fois, trônait non plus une mortelle, la plus belle et la plus adorable de toutes les mortelles, comme disaient les courtisans et les poètes, mais une véritable divinité qui gouvernait la France. Aussi, le soir du jour de la disgrâce de M. de Choiseul, la route s'encombra-t-elle des mêmes équipages qui avaient couru le matin derrière le carrosse du ministre exilé. De plus, on vit tous les partisans du chancelier, de la corruption et de la faveur, ce qui faisait un cortège imposant. Mais Madame du Barry avait sa police. Jean savait, à un baron près, le nom de ceux qui avaient été jetés une dernière fleur sur les Choiseul expirés. Il disait ses noms à la comtesse et cela était exclu impitoyablement, tandis que le courage des autres contre l'opinion publique était récompensé par le sourire protecteur et la vue complète de la divinité du jour. Après la grande file des carrosses et des encombrements généraux, eurent lieu les réceptions particulières. Richelieu, le héros de la journée, héros secret, il est vrai, et modeste surtout, vit passer le tourbillon des visiteurs et des solliciteurs et occupa le dernier fauteuil du boudoir. Dieu sait la joie, et comme on se félicite, les serrements de main, les petits rires étouffés, les trépignements enthousiastes semblaient être devenus le langage habituel des habitants de Lucienne. « Il faut avouer, dit la comtesse, que le comte de Balsamo ou de Phénix, comme vous voudrez l'appeler, maréchal, est le premier homme de ce temps-ci. Il serait bien dommage qu'on brûlât encore des sorciers. » « Oui, comtesse, oui, c'est un bien grand homme, répondit Richelieu. Et un fort bel homme, j'ai un caprice pour cet homme-là, duc. Vous allez me rendre jaloux, dit Richelieu en riant, et pressé d'ailleurs de ramener la conversation à un sérieux plus prononcé. Ce serait un terrible ministre de la police que monsieur le comte de Phénix. J'y songeais, répliqua la comtesse, seulement il est impossible. Pourquoi, comtesse? Parce qu'il rendrait impossible ses collègues. Comment cela? Sachant tout, voyant tout leur jeu. Richelieu rougit sous son rouge. Comtesse, répliqua-t-il, je voudrais, si j'étais son collègue, qu'il fût perpétuellement dans le mien et qu'il vous communiquât les cartes. Vous y verriez toujours le valet de cœur aux genoux de la dame et aux pieds du roi. « Ah, il n'y a personne qui ait plus d'esprit que vous, mon cher duc, répliqua la comtesse. Mais parlons un peu de notre ministère. Je croyais que vous aviez dû faire avertir votre neveu d'Aiguillon. Il est arrivé, madame, et dans des conjonctures qu'un augure romain eût jugées les meilleures du monde. Son carrosse a croisé celui de monsieur de Choiseul, partant. « Ah, c'est en effet un augure favorable, dit la comtesse. Donc, il va venir. » « Madame, j'ai compris que monsieur d'Aiguillon, s'il était vu à Lucienne par tout le monde, et dans un moment comme celui-ci, donnerait lieu à toutes sortes de commentaires. Je l'ai prié de demeurer en bas au village, jusqu'à ce que je le mande, d'après vos ordres. « Mandez-le donc, maréchal, et tout de suite, car nous voilà seuls, ou à peu près, d'autant plus volontiers que nous nous sommes tout à fait entendus, n'est-ce pas, comtesse ?» « Absolument, oui, duc. Vous préférez la guerre aux finances, n'est-ce pas? Ou bien est-ce la marine que vous désirez ?»« Je préfère la guerre, madame. C'est là que je pourrais rendre le plus de service. »« Ah, c'est juste. Voilà donc le sens dans lequel je parlerai au roi. Vous n'avez pas d'antipathie. Pour qui ? Pour ceux de vos collègues que sa majesté présentera. » « Je suis l'homme du monde le moins difficile à vivre, comtesse, mais vous permettez que je fasse appeler mon neveu, puisque vous voulez bien lui accorder la faveur de le recevoir. » Richelieu s'approcha de la fenêtre. Les dernières lueurs du crépuscule éclairaient encore la cour. Il fit signe à un de ses valets de pied qui guettait cette fenêtre et qui partit en courant sur son signal. Cependant, on commençait à allumer chez la comtesse. 10 minutes après le départ du valet, une voiture entra dans la première cour. La comtesse tourna vivement les yeux vers la fenêtre. Richelieu surprit le mouvement qui lui parut un excellent pronostic pour les affaires de monsieur d'Aiguillon et, par conséquent, pour les siennes. « Elle goûte l'oncle, se dit-il, elle prend goût au neveu. Nous serons les maîtres ici. » Et, tandis qu'il se repaissait de ses fumées chimériques, un petit bruit se fit entendre à la porte et la voix du valet de chambre de confiance annonça le duc d'Aiguillon. C'était un seigneur fort beau et fort gracieux, d'une mise aussi riche qu'élégante et bien entendue. Monsieur d'Aiguillon avait passé l'âge de la fraîche jeunesse, mais il était de ces hommes qui, par le regard et la volonté, sont jeunes jusqu'à la vieillesse décrépite. Les soucis du gouvernement n'avaient pas imprimé une ride sur son front, ils avaient seulement agrandi le pli naturel qui semble chez les hommes d'État et chez les poètes l'asile des grandes pensées. Il tenait droite et haute sa belle tête pleine de finesse et de mélancolie, comme s'il savait que la haine de 10 millions d'hommes pesait sur cette tête. Mais comme si, en même temps, il eût voulu prouver que le poids n'était pas au-dessus de sa force. Monsieur d'Aiguillon avait les plus belles mains du monde, de ces mains qui semblent blanches et délicates, même dans les flots de la dentelle. On prisait fort en ce temps une jambe bien tournée, celle du duc était un modèle d'élégance nerveuse et de forme aristocratique. Il y avait en lui de la suavité du poète et de la noblesse du grand seigneur, de la souplesse et du moelleux d'un mousquetaire. Pour la comtesse, c'était un triple idéal. Elle trouvait en un seul modèle trois types que, d'instinct, cette belle sensuelle devait aimer. Par une singularité remarquable, ou pour mieux dire, par un enchaînement de circonstances combinées par la savante tactique de M. d'Aiguillon, ces deux héros de l'animadversion publique, la courtisane et le courtisan, ne s'étaient pas encore vus face à face à la cour, avec tous leurs avantages. Depuis 3 ans, en effet, M. d'Aiguillon était en fait très occupé en Bretagne ou dans son cabinet. Il avait peu prodigué sa personne à la cour, sachant bien qu'il allait arriver une crise favorable ou défavorable, que dans le premier cas, mieux valait offrir à ses administrés les bénéfices de l'inconnu, dans le second, disparaître sans trop laisser de traces pour pouvoir facilement sortir du gouffre plus tard avec une figure neuve. Et puis une autre raison dominait tous ses calculs, celle-ci est du ressort du roman, était pourtant la meilleure. Avant que Madame du Barry fût comtesse et effleurât chaque nuit de ses lèvres la couronne de France, elle avait été une jolie créature, souriante et adorée. Elle avait été aimée, bonheur sur lequel elle ne devait plus compter jamais depuis qu'elle était crainte. Parmi tous les hommes jeunes, riches, puissants et beaux qui avaient fait leur cour à Jeanne Vaubernier, parmi tous les rimeurs qui avaient accolé au bout de deux vers ces mots « l'ange et ange », Monsieur le duc d'Aiguillon avait autrefois figuré en première ligne. Mais soit que Mademoiselle Lange n'eût pas été aussi facile que ses détracteurs le prétendaient, soit qu'enfin, et ceci n'ôtera de mérite ni à l'un ni à l'autre, soit que l'amour subi du roi eût divisé les deux cœurs prêts à s'entendre, Monsieur d'Aiguillon avait rengainé vers acrostiches, bouquets et parfums. Mademoiselle Lange avait fermé sa porte de la rue des Petits Champs, le duc avait tiré vers la Bretagne, étouffant ses soupirs, et Mademoiselle Lange avait envoyé tous les siens du côté de Versailles à Monsieur le baron de Gonesse, c'est-à-dire au roi de France. Il en résulta que cette disparition subite de d'Aiguillon avait fort peu occupé d'abord Madame du Barry, parce qu'elle avait peur du passé, mais qu'ensuite, voyant l'attitude silencieuse de son ancien adorateur, elle avait été intriguée, puis émerveillée, et que, bien placée pour juger les hommes, elle avait jugé celui-là un véritable homme d'esprit. C'était beaucoup, cette distinction pour la comtesse, mais ce n'était pas tout, et le moment allait venir où peut-être elle jugerait d'Aiguillon un homme de cœur. Il faut dire que la pauvre Mademoiselle Lange avait ses raisons pour craindre le passé. Un mousquetaire, amant jadis heureux, disait-il, était entré un jour jusque dans Versailles pour redemander à Mademoiselle Lange un peu de ses faveurs passées, et ses paroles, étouffées bien vite par une hauteur toute royale, n'en avaient pas moins fait jurer l'écho pudique du palais de Madame de Maintenon. On a vu que, dans toute sa conversation avec Madame du Barry, le maréchal n'avait jamais effleuré le chapitre d'une connaissance de son neveu et de Mademoiselle Lange. Ce silence de la part d'un homme aussi habitué que le vieux duc à dire les choses du monde les plus difficiles avait profondément surpris, et, faut-il le dire, inquiété la comtesse. Elle attendait donc impatiemment M. d'Aiguillon pour savoir enfin à quoi s'en tenir et si le maréchal avait été discret ou est ignorant. Le duc entra. Respectueux, avec aisance, et assez sûr de lui pour saluer entre la reine et la femme de cour ordinaire, il subjugua tout d'un coup, par cette nuance délicate, une protection toute disposée à trouver le bien parfait et le parfait merveilleux. Monsieur d'Aiguillon prit ensuite la main de son oncle, qui, s'avançant vers la comtesse, lui dit de sa voix pleine de caresses, Voici monsieur le duc d'Aiguillon, madame. Ce n'est pas mon neveu, c'est un de vos serviteurs les plus passionnés que j'ai l'honneur de vous présenter. La comtesse regarda le duc sur ce mot, et elle le regarda comme font les femmes, c'est-à-dire avec des yeux à qui rien n'échappe. Elle ne vit que les deux fronts courbés respectueusement, et deux figures qui remontèrent calmes et sereines après le salut. Je sais, répondit madame du Barry, que vous aimez monsieur le duc, maréchal. Vous êtes mon ami, je prierai monsieur, par déférence pour son oncle, de limiter en tout ce que son oncle fera d'agréable pour moi. C'est la conduite que je me suis tracée à l'avance, madame, répondit le duc d'Aiguillon avec une révérence nouvelle. Vous avez bien souffert en Bretagne, dit la comtesse. Oui, madame, et je ne suis pas au bout, répondit d'Aiguillon. Je crois que si, monsieur. D'ailleurs, voilà monsieur de Richelieu qui va vous aider puissamment. D'Aiguillon regarda Richelieu comme surpris. Ah, fit la comtesse, je vois que le maréchal n'a pas encore eu le temps de causer avec vous. C'est tout simple, vous arrivez de voyage. Eh bien, vous devez avoir 100 choses à vous dire. Je vous laisse, maréchal. Monsieur le duc, vous êtes ici, chez vous. La comtesse, à ces mots, se retira. Mais elle avait un projet. La comtesse n'alla pas bien loin. Derrière le boudoir, un grand cabinet s'ouvrait où le roi, souvent, lorsqu'il venait à Lucienne, aimait à s'asseoir au milieu des chinoiseries de toute espèce. Il préférait ce cabinet au boudoir parce que de ce cabinet on entendait tout ce qui se disait dans la chambre voisine. Madame du Barry était donc sûre d'entendre de là toute la conversation du duc et de son neveu. C'est de là qu'elle allait se former sur ce dernier une opinion irrévocable. Mais le duc ne fut pas dupe. Il connaissait une grande partie des secrets de chaque localité royale ou ministérielle. Écouter pendant que l'on parlait était un de ses moyens. Parler pendant qu'on écoutait était une de ses ruses. Il résolut donc, tout chaud encore de l'accueil que venait de faire madame du Barry à d'Aiguillon, il résolut de pousser jusqu'au bout la veine et d'indiquer à la favorite, sous bénéfice de son absence supposée, tout un plan de petits bonheurs secrets et de grandes puissances compliquées d'intrigues, double appât auquel une jolie femme et surtout une femme de cour ne résiste presque jamais. Il fit asseoir le duc et lui dit « Vous voyez, duc, que je suis installé ici. »« Oui, monsieur, je le vois. J'ai eu le bonheur de gagner la faveur de cette charmante femme qu'on regarde ici comme reine et qui l'est de fait. » D'Aiguillon s'inclina. « Je vous dis, duc, poursuivit Richelieu, ce que je n'ai pu vous apprendre comme cela en pleine rue, c'est que madame du Barry m'a promis un portefeuille. » Ah, fit d'Aiguillon, cela vous est bien dû, monsieur. Je ne sais pas si cela m'est dû, mais cela m'arrive, un peu tard, il est vrai. Enfin, casé comme je le serai, je vais m'occuper de vous, d'Aiguillon. Merci, monsieur le duc, vous êtes un bon parent, j'en ai plus d'une preuve. Vous n'avez rien en vue, d'Aiguillon? Absolument rien, sinon de n'être pas dégradé de mon titre de duc et pair, comme le demandent messieurs du Parlement. Vous avez des soutiens quelque part? Moi, pas un. Vous fussiez donc tombé, sans la circonstance présente, tout à plat, monsieur le duc. Ça, mais vous parlez comme un philosophe. Que diable aussi, c'est que je te rudoie, mon pauvre d'Aiguillon, et que je te parle en ministre plutôt qu'en oncle. Mon oncle, votre bonté me pénètre de reconnaissance. Si je t'ai fait venir de là-bas et si vite, tu comprends bien que c'est pour te faire jouer ici un beau rôle. Voyons, as-tu bien réfléchi parfois à celui qu'a joué pendant 10 ans, monsieur de Choiseul? Oui, certes, il était beau, beau, entendons-nous, beau lorsque, avec madame de Pompadour, il gouvernait le roi et faisait exiler les jésuites. Triste, fort triste, lorsque s'est embrouillé comme un sot avec madame du Barry, qui vaut 100 Pompadour, il s'est fait mettre à la porte en 24 heures. Tu ne réponds pas? J'écoute, monsieur, je cherche où vous voulez en venir. Tu l'aimes, n'est-ce pas, ce premier rôle de Choiseul? Certainement. Eh bien, mon cher ami, ce rôle, j'ai décidé que je le jouerai. D'Aiguillon se tourna brusquement vers son oncle. Vous parlez sérieusement, dit-il. Oui, pourquoi pas? Vous serez l'amant de Madame du Barry? Oh, diable, tu vas trop vite. Cependant, je vois que tu m'as compris. Oui, Choiseul était bien heureux. Il gouvernait le roi, il gouvernait sa maîtresse, il aimait, dit-on, Madame de Pompadour. Au fait, pourquoi pas? Eh bien non, je ne puis être l'amant aimé. Ton froid sourire me le dit bien. Tu regardes avec tes jeunes yeux mon front ridé, mes genoux cagneux et ma main sèche qui fut si belle. Au lieu de dire, en parlant de Choiseul, je le jouerai, j'aurais donc dû dire, nous le jouerons. Mon oncle. Non, je ne puis être aimé d'elle, je le sais. Pourtant, je te le dis sans crainte, parce qu'elle ne peut le savoir, j'aimerais cette femme par-dessus tout. Mais. D'Aiguillon fronça le sourcil. Mais, continua-t-il, j'ai fait un plan superbe. Ce rôle que mon âge me rend impossible, je le dédoublerai. Ah, fit monsieur d'Aiguillon, quelqu'un des miens, dit Richelieu, aimera madame du Barry. Parbleu, la belle affaire, une femme accomplie. Et Richelieu haussa la voix. Ce n'est pas Fronsac, tu comprends, un malheureux dégénéré, un sot, un lâche, un fripon, un croquant. Voyons, Duc, sera-ce toi? Moi? S'écria d'Aiguillon. Vous êtes fou, mon oncle. Fou? Quoi? Tu n'es pas déjà aux pieds de celui qui te donne ce conseil? Quoi? Tu ne fonds pas de joie? Tu ne brûles pas de reconnaissance? Quoi? À la façon dont elle t'a reçu, tu n'es pas déjà épris, enragé d'amour? Allons, allons! S'écria le vieux maréchal. Depuis Alcibiade, il n'y a eu qu'un Richelieu au monde. Il n'y en aura plus, je vois bien cela. Mon oncle, répliqua le duc avec une agitation, soit feinte, et en ce cas elle était admirablement jouée, soit réelle, car la proposition était nette. Mon oncle, je conçois tout le parti que vous pourriez tirer de la position dont vous me parlez. Vous gouverneriez avec l'autorité de monsieur de Choiseul, et je serais l'amant qui vous constituerait cette autorité. Oui, le plan est digne de l'homme le plus spirituel de la France. Mais vous n'avez oublié qu'une chose en la faisant. Quoi donc? S'écria Richelieu avec inquiétude. N'aimerais-tu pas madame du Barry? Est-ce cela? Fou, triple fou, malheureux, est-ce cela? Non, non, ce n'est pas cela, mon oncle, s'écria d'Aiguillon, comme s'il eût su que pas une de ses paroles ne devait être perdue. Madame du Barry, que je connais à peine, m'a semblé être la plus belle et la plus charmante des femmes. J'aimerais au contraire éperdument Madame du Barry. Je l'aimerais trop. Ce n'est pas là la question. Où est-elle donc, la question? Ici, monsieur le duc. Madame du Barry ne m'aimera jamais. La première condition d'une alliance pareille, c'est l'amour. Comment voulez-vous qu'au milieu de cette cour brillante, au sein des hommages d'une jeunesse fertile en beauté de tout genre, comment voulez-vous que la belle comtesse aille distinguer précisément celui qui n'a aucun mérite, celui qui déjà n'est plus jeune et que les chagrins accablent, celui qui se cache à tous les yeux parce qu'il sent que bientôt il va disparaître? Mon oncle, si j'avais connu madame du Barry au temps de ma jeunesse et de ma beauté, alors que les femmes aimaient en moi tout ce qu'on aime dans un jeune homme, elle aurait pu me garder à l'état de souvenir. C'est beaucoup, mais rien, ni passé, ni présent, ni avenir. Mon oncle, il faut renoncer à cette chimère. Seulement, vous m'avez percé le cœur en me la présentant si douce et si dorée. Pendant cette tirade débitée avec le feu que Mollet eût envié et que Lequin eût jugé digne d'étude, Richelieu se mordait les lèvres en se disant tout bas: Est-ce que le drôle a deviné que la comtesse nous écoutait? Peste, qu'il est adroit, c'est un maître. En ce cas, prenons garde. Il avait raison, Richelieu, la comtesse écoutait, et chacune des paroles de d'Aiguillon lui était entrée bien avant dans le cœur. Elle buvait à longs traits le charme de cet aveu, elle savourait l'exquise délicatesse de celui qui, même avec un confident intime, n'avait pas trahi le secret de la liaison passée de peur de jeter une ombre sur un portrait encore aimé peut-être. Ainsi, tu me refuses, dit Richelieu. Oh, pour cela, oui, mon oncle, car malheureusement, je vois la chose impossible. Essaie au moins, malheureux. Et comment? Mais te voici des nôtres, tu verras la comtesse tous les jours. Plais-lui, morbleu. Avec un but intéressé. Non, non. Si j'avais le malheur de lui plaire, avec cette amère pensée, je m'enfuirais tout au bout du monde, car j'aurais honte de moi-même. Richelieu se gratta encore le menton. La chose est faite, se dit-il, ou d'Aiguillon est un sot. Tout à coup, on entendit un bruit dans les cours et quelques voix crièrent « Le roi !»« Diable !» s'écria Richelieu, « le roi ne doit pas me voir ici, je me sauve. »« Mais moi, » dit le duc, « toi, c'est différent, il faut qu'il te voie, reste, reste, et pour Dieu, ne jette pas le manche après la cognée. » Cela dit, Richelieu se déroba par le petit escalier en disant au duc « À demain !» Le duc d'Aiguillon, resté seul, se trouva d'abord assez embarrassé. Il avait parfaitement compris tout ce que lui disait son oncle, parfaitement compris que Madame du Barry l'écoutait, parfaitement compris enfin que, pour un homme d'esprit, il s'agissait, en cette occurrence, d'être un homme de cœur et de jouer seul la partie dans laquelle le vieux duc cherchait à se faire un associé. L'arrivée du roi interrompit fort heureusement l'explication qui eut forcément résulté de la contenance toute puritaine de M. d'Aiguillon. Le maréchal n'était pas homme à demeurer longtemps dupe et surtout à faire briller d'un éclat exagéré la vertu d'un autre aux dépens de la sienne. Mais étant resté seul, d'Aiguillon eut le temps de réfléchir. Le roi arrivait en effet. Déjà ses pages avaient ouvert la porte de l'antichambre et Zamor s'élançait vers le monarque en lui demandant des bonbons, touchante familiarité que dans ces moments de sombre humeur, Louis XV payait d'une nasarde ou d'un frottement d'oreille fort désagréable au jeune Africain. Le roi s'installa dans le cabinet des chinoiseries et ce qui convainquit d'Aiguillon que Madame du Barry n'avait pas perdu un mot de la conversation avec son oncle, c'est que lui, d'Aiguillon, entendit parfaitement, dès les premiers mots, l'entretien du roi avec la comtesse. Sa Majesté paraissait fatiguée, comme un homme qui aurait levé un poids immense. Atlas était moins impotent après sa journée faite, quand il avait tenu le ciel 12 heures sur ses épaules. Louis XV se fit remercier, applaudir, caresser par sa maîtresse, et se fit raconter tout le contre-coup du renvoi de M. de Choiseul, et cela le divertit beaucoup. Alors Madame du Barry se hasarda, il faisait beau temps pour la politique, et d'ailleurs elle se sentait brave à remuer une des quatre parties du monde. « Sire, dit-elle, vous avez détruit, c'est bien, vous avez démoli, c'est superbe, mais à présent, il s'agit de rebâtir. »« Oh, ce fait, dit le roi négligemment. Vous avez un ministère ?»« Oui. »« Comment cela, tout d'un coup, sans respirer ?»« Voilà-t-il de mes gens sans cervelle, ô femme que vous êtes, avant de chasser son cuisinier, comme vous disiez l'autre jour, est-ce que l'on n'en arrête pas un nouveau ?» « Mais redites-moi encore que vous avez composé le cabinet. » Le roi se souleva sur le vaste sofa où il s'était couché, plutôt qu'assis, usant pour coussin principal des épaules de la belle comtesse. « On penserait, Jeannette, lui dit-il à vous entendre, vous inquiéter, que vous connaissez mon ministère pour le blâmer et que vous en avez un à me proposer. » « Mais, dit la comtesse, ce n'est pas si absurde, cela. » « Vraiment, vous avez un ministère. Vous en avez bien un, vous, répliqua-t-elle. Oui, mais moi, c'est mon état, comtesse. Voyons un peu vos candidats. Non pas, dites-moi les vôtres. Je le veux bien, pour vous donner l'exemple. À la marine, d'abord, où était ce cher monsieur de Pralin? Ah, du nouveau, comtesse, un homme charmant qui n'a jamais vu la mer. Allons donc, d'honneur, ceci est une invention magnifique. Je vais me rendre très populaire. On va me couronner dans les mers les plus éloignées, en effigie, s'entend. Mais qui, sire, qui donc? Gageons qu'en mille vous ne devinez pas. Un homme dont le choix vous rend populaire? Ma foi, non. Un homme du Parlement, ma chère. Un premier président du Parlement de Besançon. Monsieur de Boynes? Lui-même, peste! Comme vous êtes savante, vous connaissez ces gens-là? Il le faut bien. Vous me parlez parlement toute la journée. Ah ça, mais cet homme-là ne sait pas ce que c'est qu'un aviron. Tant mieux. Monsieur de Pralin savait trop bien son état et il m'a coûté trop cher avec ses constructions navales. Mais aux finances, si. Pour les finances, c'est différent. Je choisis un homme spécial. Un financier? Non, un militaire. Il y a trop longtemps que les financiers me grugent. Mais à la guerre, grand Dieu? Tranquillisez-vous, j'y mets un financier. Terray, c'est un éplucheur de comptes. Il va trouver des erreurs dans toutes les additions de monsieur de Choiseul. Je vous dirais que j'avais eu l'idée de prendre pour la guerre un homme merveilleux, un pur, comme ils disent. C'était pour plaire aux philosophes. Bah, qui donc? Voltaire? Presque. Le chevalier de Muy, un Caton. Oh mon Dieu, vous m'épouvantez. C'était fait, j'avais fait venir l'homme, ses provisions étaient signées, il m'avait remercié lorsque mon bon ou mon mauvais génie, décidé comtesse, me pousse à lui dire de venir ce soir à Lucienne souper et causer. Fi, l'horreur! Eh bien, comtesse, voilà précisément ce que Dumouy m'a répondu. Il vous a dit cela? En d'autres termes, comtesse, mais enfin il m'a dit que servir le roi était son plus ardent désir, mais que pour servir Madame du Barry, c'était impossible. Eh bien, il est joli, votre philosophe. Vous comprenez, comtesse, je lui ai tendu la main pour qu'il me rendît son brevet, que j'ai mis en pièces avec un fort patient sourire, et le chevalier a disparu. Louis XIV, pourtant, eût fait pourrir ce gaillard-là dans un des vilains trous de la Bastille. Mais je suis Louis XV, et j'ai un parlement qui me donne le fouet, au lieu que ce soit moi qui donne le fouet au parlement. Voilà. C'est égal, sire, dit la comtesse en couvrant de baisers son royal amant. Vous êtes un homme accompli. Ce n'est pas ce que tout le monde dira. Terray est exécré. Qui ne l'est pas. Et aux affaires étrangères? Ce brave Bertin que vous connaissez? Non. Alors que vous ne connaissez pas. Bon, dans tout cela, je ne vois pas un seul bon ministre, moi. Soit, dites-moi les vôtres. Je n'en dirai qu'un. Vous ne le dites pas, vous avez peur. Le maréchal. Quel maréchal? Fit le roi avec une grimace. Le duc de Richelieu. Ce vieillard, cette poule mouillée. Bon, le vainqueur de Mahon, une poule mouillée. Un vieux paillard. Si, votre compagnon, un homme immoral, qui fait fuir toutes les femmes. Que voulez-vous? C'est depuis qu'il ne court plus après elles. Ne me parlez jamais de monsieur de Richelieu, c'est ma bête noire. Ce vainqueur de Mahon m'a mené dans tous les tripots de Paris. On nous chansonnait. Oh non pas Richelieu. Oh, rien que le nom me met hors de moi. Vous les haïssez donc bien? Qui? Les Richelieu, je les exècre. Tous? Tous. Voilà-t-il pas un beau duc et pair que monsieur Fronsac, il a 10 fois mérité la roue. Je vous le livre, mais il y a encore des Richelieu de par le monde. Ah oui, des Guyon. Eh bien, on juge si à ces propos l'oreille du neveu était droite dans le boudoir. Celui-là, je devrais le haïr plus que les autres, car il me met sur les bras tout ce qu'il y a de braillard en France, mais c'est un faible dont je ne puis me guérir. Il est hardi et ne me déplaît pas. C'est un homme d'esprit, s'écria la comtesse. Un homme courageux et âpre à défendre la prérogative royale, voilà un vrai pair. Oui, 100 fois oui, faites-en quelque chose. Alors le roi regarda la comtesse en se croisant les bras. Comment se peut-il, comtesse, que vous me proposiez une chose pareille au moment où toute la France me demande d'exiler et de dégrader le duc? Madame du Barry se croisa les bras à son tour. Tout à l'heure, dit-elle, vous appeliez Richelieu le poule mouillée. Eh bien, c'est à vous que ce nom revient de droit. Oh, comtesse, vous voilà bien fière parce que vous avez renvoyé monsieur de Choiseul. Ce n'était pas aisé. Vous l'avez fait, c'est bien. Et à présent, vous reculez devant les conséquences. Moi? Sans doute. Que faites-vous en renvoyant le duc? Je donne un coup de pied au derrière du Parlement. Et vous n'en voulez pas donner deux? Que diable! Levez les deux jambes l'une après l'autre, bien entendu. Le Parlement voulait garder Choiseul, renvoyer Choiseul. Il veut renvoyer d'Aiguillon, garder d'Aiguillon. Je ne le renvoie pas. Gardez-le, corrigé et augmenté considérablement. Vous voulez un ministère pour ce brouille-tout? Je veux une récompense pour celui qui vous a défendu au péril de ses dignités et de sa fortune. Dites de sa vie, car on le lapidera un de ces matins, votre duc, en compagnie de votre ami Maupéou. Vous encourageriez beaucoup vos défenseurs s'ils vous entendaient. Il me le rend bien, comtesse. Ne dites pas cela, les faits parlent. Ah ça, mais pourquoi cette fureur pour d'Aiguillon? Fureur, je ne le connais pas, je l'ai vu aujourd'hui et je lui ai parlé pour la première fois. Ah, c'est différent, il y a conviction alors, et je respecte toutes les convictions, n'en ayant jamais eu moi-même. Alors donnez quelque chose à Richelieu au nom de d'Aiguillon, puisque vous ne voulez rien donner à d'Aiguillon. Ah, Richelieu, rien, 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 jamais rien. Ah, monsieur d'Aiguillon, alors, puisque vous ne donnez pas à Richelieu, quoi, lui donner un portefeuille? En ce moment, c'est impossible. Je le conçois, mais plus tard, songez qu'il est homme de ressources, d'action, et qu'avec Terray, d'Aiguillon et Maupéou, vous aurez les trois têtes de Cerbère. Songez aussi que votre ministère est une plaisanterie qui ne peut pas durer. Vous vous trompez, comtesse, il durera bien 3 mois. Dans 3 mois, je retiens votre parole. Oh, comtesse, c'est dit, maintenant il me faut du présent. Je n'ai rien. Vous avez des chevaux légers, monsieur d'Aiguillon est un officier, c'est ce qu'on appelle une épée. Donnez-lui vos chevaux légers. Allons, soit, il les aura. Merci, s'écria la comtesse, transportée de joie, merci. Et monsieur d'Aiguillon put entendre résonner un baiser tout plébéien sur les joues de sa majesté Louis XV. À présent, dit le roi, faites-moi souper, comtesse. Non, dit-elle, il n'y a rien ici. Vous m'avez assommée de politique. Mes gens ont fait des discours, des feux d'artifice, mais de cuisine, point. Alors venez à Marly, je vous emmène. Impossible, j'ai ma pauvre tête fendue en quatre. La migraine? Impitoyable. Il faut vous coucher alors, comtesse. Ah, c'est ce que je vais faire, sire. Alors, adieu. Au revoir, c'est-à-dire. J'ai un peu l'air de monsieur de Choiseul, on me renvoie. En vous reconduisant, en vous festoyant, en vous cajolant, dit la folâtre femme, qui tout doucement poussait le roi vers la porte et finit par le mettre dehors, riant aux éclats et se retournant à chaque marche de l'escalier. Du bout du péristyle, la comtesse tenait un bougeoir. Dis donc, comtesse, fit le roi en remontant un degré. Sire, pourvu que le maréchal n'en meure pas. De quoi? De son portefeuille rentré. Êtes-vous mauvais? Dit la comtesse en l'escortant d'un dernier éclat de rire. Et Sa Majesté partit fort satisfaite de son dernier quolibet sur le duc qu'elle exécrait réellement. Quand Madame du Barry rentra dans son boudoir, elle trouva d'Aiguillon à genoux devant la porte, les mains jointes, les yeux ardemment fixés sur elle. Elle rougit. Échoué, dit-elle, ce pauvre maréchal. Oh, je sais tout, dit-il, on entend. Merci, madame, merci. Je crois que je vous devais cela, répliqua-t-elle avec un doux sourire. Mais relevez-vous, duc, sinon je croirais que vous avez autant de mémoire que vous avez d'esprit. Cela peut bien être, madame, mon oncle vous l'a dit, je ne suis rien que votre passionné serviteur. Et celui du roi, demain, il faudra rendre vos devoirs à sa majesté. Relevez-vous, je vous prie. Elle lui donna sa main, qu'il baisa respectueusement. La comtesse fut bien émue à ce qu'il paraît, car elle n'ajouta pas un mot. Monsieur d'Aiguillon resta aussi muet, aussi troublé qu'elle. À la fin, madame du Barry, relevant la tête, « Pauvre maréchal, dit-elle encore, il faudra qu'il sache cette défaite. » Monsieur d'Aiguillon regarda ces mots comme un congé définitif. Il s'inclina. « Madame, dit-il, je vais me rendre auprès de lui. « Oh, duc, toute mauvaise nouvelle doit s'annoncer le plus tard possible. Faites mieux que d'aller chez le maréchal. Soupez chez moi. » Le duc sentit comme un parfum de jeunesse et d'amour embraser, régénérer le sang de son cœur. Vous n'êtes pas une femme, dit-il, vous êtes l'ange, n'est-ce pas? Lui dit à l'oreille la bouche brûlante de la comtesse, qui l'effleura pour lui parler plus bas et qui l'entraîna à table. Ce soir-là, monsieur d'Aiguillon dut se regarder comme bien heureux, car il prit le portefeuille à son oncle et mangea la part du roi.